vais vous raconter l'histoire d'une belle équipe. C'est une équipe de foot ou de rugby ou une troupe de théâtre ou simplement une bande de potes, peu importe, car ce que nous cherchons ici, c'est l'essence. L'essence d'une belle équipe. Une belle équipe, je crois, est toujours plus qu'une addition, plus qu'une agrégation, plus qu'une somme de talents. Une belle équipe ne s'approche pas par une arithmétique, mais bien, je crois, par une mystique. Comment ont-ils fait, en effet, pour réussir à être ensemble, à devenir ensemble, à jouer ensemble ? Ils ont fait plus qu'additionner leurs talents, que sommer leurs compétences. Ils se sont écoutés, se sont mis en retrait parfois aussi. Ils ont eu davantage confiance en le collectif qu'en eux-mêmes comme individus. L'intelligence collective commence exactement là, quand on comprend que ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre nous et non pas ce qu'il y a en nous. Nous ne sommes pas des monades, nous ne sommes pas des particules élémentaires, mais bien des êtres de relation. Nous échangeons des passes, des répliques, des regards, des sourires, de l'énergie. Et c'est dans cet échange que se tisse, que grandit l'être ensemble. Comment ont-ils fait, ces joueurs de rugby, ces comédiens de théâtre, pour devenir une équipe, pour devenir une troupe? Comment ont-ils fait pour réussir là où le PSG a échoué? Ils accumulent les millions, les stars, les génies, ils additionnent et ça ne fait toujours pas une belle équipe. Rousseau l'avait déjà dit, l'union n'est pas l'agrégation. L'union, c'est la mise en commun d'un désir plus que d'une identité. L'union, c'est la mise en commun de doutes plus que de certitudes. Pour que l'équipe soit belle, il faut parfois un peu de soustraction, moins de stars, moins d'ego, moins de certitudes. Pour que l'être ensemble puisse exister, il faut lui donner sa chance. Si chaque être individuel s'accroche à son savoir, à son identité, à sa certitude, à sa compétence, si chaque être individuel est parfaitement gonflé de lui-même, fier de lui et sûr de lui, alors il n'y a tout bonnement aucun espace pour être ensemble. L'être ensemble est un dépassement des êtres individuels. Dépassement par en dessous, dans l'humilité, dans l'écoute. Dépassement par au-dessus, dans la poursuite d'un horizon, d'un rêve commun. Au fond, l'équipe est belle quand nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Quand nous sommes à la fois un peu moins que nous-mêmes et un peu plus que nous-mêmes. Pour en parler ce matin, de belle équipe, de troupe, mais aussi de succès, d'échecs et bien sûr d'amour du théâtre, j'ai la joie de recevoir Alexis Michalik, comédien, dramaturge, metteur en scène, écrivain, chanteur, danseur de claquettes, Alexis Michalik, le petit prince du théâtre privé, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à cheminer sur les bords de notre difficile question. Qu'est-ce qu'une belle équipe ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Alexis Michalik, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est vrai que vous n'avez pas que ça à faire. Vous jouez ce soir à Avignon. Il y a en ce moment, je crois, 4 ou 5 de vos pièces qui sont jouées partout. À chaque fois, les salles sont pleines.
On essaye, en tout cas.
Et pourtant, vous avez l'air sympa, souriant et... disponible.
Justement, c'est le soleil d'Avignon qui me donne le sourire. J'aime beaucoup la comparaison avec le sport, avec le rugby, le foot. C'est vrai qu'une équipe, c'est ça aussi au théâtre, avec une grande, grande différence, c'est qu'on n'est pas là pour gagner.
Oui.
On est juste là pour raconter une histoire, nous. Il y a des victoires et des échecs, hein, mais il y a pas de compétition vraiment les uns entre les autres, et surtout, il n'y a pas de première place.
Hein, ouais. En tout cas, pas dans vos pièces.
Non, mais de manière générale, entre deux spectacles, je veux dire, un spectacle peut marcher, un autre spectacle peut marcher, ça peut être deux spectacles complètement différents, ils vont pas se combattre les autres.
Oui, quoi. On peut pas les comparer au fond.
C'est la limite de la comparaison avec le sport. Mais oui, évidemment qu'il y a l'échec qui plane et que quand tout acte de création se confronte immédiatement à la critique, et la critique est déjà en soi un échec en soi, ou si on nous critique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas.
Mais finalement, au regard de votre succès, vous n'êtes pas tant critiqué que ça, parce qu'on dit souvent oui, en France on n'aime pas ceux qui réussissent, on doit faire profil bas, on doit surjouer une humilité pour ne pas s'attirer les foudres des Français jaloux. Mais finalement, dans votre cas, on vous critique pas tellement.
Vous peut-être pas vous, mais non, bien sûr, tout le monde critique. Tout succès entraîne des jalousies, des déçus, et puis même globalement, il y a évidemment, bon, il y a effectivement, ça, les pièces fonctionnent très bien, etc. Mais il y a évidemment des gens qui aiment pas et des gens qui se privent pas de critiquer. Bon, simplement, quand la salle est pleine, c'est plus facile d'accepter la critique, quoi.
C'est vrai.
Mais non, si, elle fait partie du jeu à chaque étape et toujours maintenant et à chaque création. moi j'ai même envie de dire, plus ça fonctionne et plus les spectacles s'enchaînent et plus la critique va avoir la dent dure. Forcément, on juge plus avec un peu plus de mansuétude une première œuvre et quelqu'un qui débarque que quelqu'un qui a eu plein de Molière, etc. Maintenant, quand je vais faire un spectacle, il est côté bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Parce que là, il va se planter cette fois. Et donc, fait partie du jeu.
Mais la France est un étonnant pays. Je prends un exemple qui est dans un autre champ. L'écrivain David Fonkinos, mais contrairement à vous, il a eu un énorme succès, mais un peu plus tardif. Donc d'abord, il a enchaîné les romans qui avaient un succès d'estime, il avait très peu de lecteurs, et dans ce cas-là, la critique l'encensait. Et puis un jour, avec la délicatesse, il avait vendu 1 million de livres, et les mêmes qui l'encensaient sont mis à dire « oui, c'est simplement efficace, mais c'est pas de la littérature ». Or, c'est une critique qu'on vous fait, de dire « oui, il est habile, il est efficace, il construit bien, mais au fond, c'est pas du théâtre d'auteur ».
Bon, c'est pas du théâtre d'auteur, je pense que si, ça, il y a pas vraiment... Ça, je l'entends pas souvent, ça. C'est plus du théâtre populaire, tout simplement. Moi, je m'inscris dans la lignée de mes maîtres, Brooke, Mnouchkine, ça varie. Nous, ce qu'on aime, c'est avoir une salle pleine et que ce soit pas un théâtre élitiste, quoi. Donc, mais même plus, il y a plus longtemps, Villard, etc. Et c'est marrant ce que vous dites sur Fonkinos. Moi, il y a une anecdote sur Feydeau que j'adore. Feydeau, il a écrit quelques pièces. Et puis, la première pièce qu'il écrit, elle obtient un succès d'estime. Et après ça, il écrit 13 pièces qui sont 13 fours. Il fait 13 bides coup sur coup. Et je trouve ça extraordinaire. Et puis la 14e, tout à coup, ça marche. Et là, les pièces d'après sont les pièces qu'on connaît de Feydeau. Mais avant toutes ces pièces qui ont marché, il y a 13 bides. Et le courage qu'il faut avoir pour continuer à écrire, pour continuer à se dire si, j'ai des choses à raconter, c'est ça la grande difficulté, je pense, de la création en général, du théâtre ou ailleurs. C'est la capacité à continuer à croire en soi pour dire non, mais en fait, ce que j'ai à raconter a du sens et ça mérite d'exister.
Oui, mais la différence, c'est que vous avez eu le succès très vite, au fond. Et du coup, la différence avec Feydeau, c'est que lui, à la mesure de l'échec, il prend la mesure de son désir. Puisque il échoue, plus il mesure qu'il a encore envie. Et on connaît cette phrase très célèbre et géniale de Beckett, « Tu as échoué, essaye encore ». Échoue encore, mais échoue mieux. Une phrase que d'ailleurs Stanislas Wawrinka, le tennisman, s'est tatoué sur l'avant-bras.
C'est vrai.
Et à partir du moment où il s'est tatoué ça, il s'est mis à égaler Federer, Nadal, et puis après il s'est blessé. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on disait au début de l'émission. Quand il a consenti à la possibilité de l'échec, à la réalité de l'échec, mais même d'un échec qui, quelque part, est un peu meilleur que l'échec d'avant, plus finalement on s'en sort, plus on gagne et plus on se rapproche de son désir. Mais dans votre cas, ce qui est passionnant, c'est que, en fait, le désir était là très jeune. Vous êtes reçu au conservatoire et vous n'y allez pas. Et c'est là que vous montez votre première pièce et même votre première troupe. Et immédiatement, quand même, ça prend.
Oui, enfin, à toute proportion gardée, ça prend pour une jeune troupe amateur de 20 ans qui part à Avignon. Ça prend dans le sens où, effectivement, on n'a pas perdu notre chemise et qu'il y avait quelques personnes dans la salle. Mais bon, faut le reporter à nos ambitions de l'époque. On n'a pas vendu des dates. Mais effectivement, on n'est pas mort étouffé à Avignon par un espèce de consensus de ce spectacle très mauvais, n'y allait pas. Il y a eu un truc, il y a eu une énergie, il y a eu quelque chose, une sorte de mayonnaise qui a prise, et c'est cette mayonnaise dont vous parlez au début dans l'édito, c'est comment on arrive à donner un supplément d'âme à une troupe pour
c'est
que...
Ça.
Et c'est drôle parce que justement, ce premier spectacle qui s'appelait Une folle journée, qui était une adaptation du mariage de Figaro, qu'on a joué en 2005 à Avignon, j'ai revu une captation il n'y a pas très longtemps, et bon, voilà, il y a tous les défauts d'une première troupe et amateur, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que tous les acteurs, qui sont tous très jeunes, qui ont entre 18 et 23-24, ils sont tous dans le même code de jeu déjà, et ils sont tous dans une espèce d'énergie à 200%, ils jouent leur vie, ils jouent les gags comme si leur vie en dépendait, et je me suis dit, ah tiens, la qualité que je décèle chez ce jeune metteur en scène que j'étais, c'est cette capacité à fédérer une équipe, et à leur donner envie d'essayer d'aller plus loin, et de leur faire faire des choses où vraiment, en voyant la captation, je me disais, ah ouais, j'ai dû être très convaincant pour arriver à leur donner l'envie de jouer comme ça, quoi.
Mais finalement, qu'est-ce qui vous excite tant dans le fait d'être, on va dire, chef de troupe ?
Je pense que c'est quelque chose, et c'est, j'en parle beaucoup quand je fais des interventions en milieu, enfin en cours de théâtre, etc. Je dis voilà, les velléités de la mise en scène, c'est quelque chose de très particulier. L'écriture, c'est très solitaire, hein, on écrit tout seul, et le plaisir de l'écriture vient après. Le jeu, c'est quelque chose où la notion de plaisir, elle est au cœur du jeu, parce que c'est quand on joue qu'on est heureux. La mise en scène, ça se situe ailleurs. Il faut aimer les responsabilités, en fait.
Oui.
Il faut aimer prendre sur le dos tout ça et dire voilà, tout est de ma faute si ça se plante, et si ça réussit c'est grâce aux autres. Et en fait la mise en scène, et je dis souvent voilà, si jamais quand vous êtes jeune ou moins jeune d'ailleurs, vous avez l'habitude d'être la personne qui organise les anniversaires,
ouais,
la personne qui gère, qui achète les billets d'avion, dans votre groupe d'amis, si vous êtes celui qui dit allez, faudrait peut-être qu'on fasse un dîner et qui va se retrouver à organiser le dîner, ben vous avez les qualités nécessaires pour devenir metteur en scène.
Donc vous étiez comme ça déjà avant.
Ouais, quand j'avais 14 ans, entre 14 et 18, j'étais monodrôleur et j'organisais au Paris Hockey Club, qui est un vieux club de roller de Paris, et j'organisais des kermesses, j'organisais des sorties, et j'avais ce truc de me dire, allez, il faut faire. J'aimais ça.
Et nous, nous cherchons, de notre côté. Alors, il y a quelque chose qui se fait mal, enfin, je finis par... Je pense qu'un auteur devrait pouvoir et vouloir travailler en complète collaboration avec un groupe. Ce qui ne veut pas du tout dire que je pense qu'il devrait tout le temps être soumis à travailler collectivement avec nous, ou quoi que ce soit. Pas du tout, je crois qu'il... Mais, quand même, c'est frappant, si on voit tous les grands dramaturges, même contemporains, eh bien les plus grands ont toujours été ceux qui ont travaillé avec des comédiens. Enfin, je veux dire, qui était proche du théâtre, mais manuellement.
C'est ce que vous disiez, non ?
Oui, et puis c'est le cas de Shakespeare, c'est le cas de Molière, c'était des acteurs. Hein.
Ouais.
Et moi, le fait d'avoir été acteur m'a donné une conscience de comment rendre un acteur heureux sur un plateau. Et c'est aussi ça, c'est que quand j'écris mes pièces, j'ai envie que ma troupe soit heureuse, j'ai pas envie qu'il y ait de malheureux, j'ai pas envie qu'il y ait de frustré, j'ai pas envie qu'il y ait de déçu. Et ça, c'est pas que la mise en scène, c'est aussi l'écriture, c'est comment on conçoit, qu'est-ce qu'on raconte et comment on fait en sorte qu'il y ait justement pas de hiérarchie sur un plateau.
Ouais, c'est très intéressant.
Ouais. Pas un acteur qui va avoir une importance bien plus prépondérante que les autres et d'autres acteurs qui vont être là un peu pour servir la soupe, pour donner quelques répliques, et d'où la naissance de frustration. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement ce côté collectif de on est tous aussi importants les uns que les autres.
Ouais,
et à partir du moment où on a instauré ça et où c'est effectif et véridique, ben on se débarrasse vraiment de beaucoup de problèmes.
C'est ce que disait Ariane Mnouchkine dans l'extrait qu'on a entendu, donc je précise. Vous avez justement dit, je préfère donner sa chance à un inconnu qui va se défoncer chaque soir plutôt qu'à une vedette qui n'a rien à prouver. Ce qui prime, c'est l'esprit de troupe. Mais revenons quand même sur la question, parce que vous avez eu la gentillesse de me ramener à mon thème que j'avais oublié. Qu'est-ce qu'une belle équipe ? Quand même, quand vous la construisez, cette troupe, est-ce que vous cherchez plutôt des... C'est la même question qu'on pourrait poser par rapport à l'amour. Est-ce que c'est qui se ressemble s'assemble, ou est-ce que c'est plutôt les complémentarités de gens qui se ressemblent pas ?
Je dirais qu'il y a des valeurs communes, quoi, que je recherche.
Ouais.
Mais il y a des trucs très pragmatiques, hein. La première chose que je cherche, c'est des acteurs qui sont disponibles. Parce que, en général, à moins que ça ne marche pas, on est sur des aventures qui vont durer un certain temps. Donc, je peux pas prendre des acteurs qui sont trop occupés. Donc,
ouais,
les
sûr.
Vedettes, ça fait partie de ça aussi. C'est-à-dire qu'une vedette va pas signer pour 2 ans sur un spectacle. Il faut qu'il fasse des films, etc. Ouais, qu'elle fasse des films. Et ensuite, non seulement il faut que ce soit disponible, mais il faut qu'il soit aussi disponible en tant qu'acteur, en tant qu'ego. Il faut pas qu'il ait un ego prépondérant qui va l'empêcher de se mettre au service d'une histoire. Et puis finalement, il faut que ce soit un bon camarade, en fait. Il faut que ce soit un ou une bon camarade ou bonne camarade. Il y a ce truc où vraiment je vais me renseigner auprès d'autres metteurs en scène, auprès d'autres acteurs, en disant bon alors comment il est. Et puis souvent, leur parole va importer. Quand on me dit ah non mais lui ou elle, tu peux vraiment y aller les yeux fermés, super.
Ouais,
super personne de troupe. En général, ça se vérifie. On se refile les bons acteurs, et d'ailleurs, c'est ceux qui travaillent le plus dans nos petits milieux. Quoi.
C'est marrant parce que on avait commencé sur la métaphore du sport, qui vous avait parlé. Je m'étais un peu moqué du PSG. Et en fait, vous parlez comme Fabien Galthié, l'entraîneur du 15 de France. Moi, j'ai eu la chance de faire une journée de philosophie avec eux avant le match du Pays de Galles. Et moi, je connaissais pas bien le rugby et j'ai vu de mes yeux ce que vous racontez. Mmh. Alors, ils sont bons, hein, les joueurs de rugby. Mais ils ont ce côté bon camarade. Ils ont cette capacité parfois à s'effacer pour que le collectif puisse marcher. Et Fabien Galthié, il dit comme vous, en fait, dans un moment, quand on fait l'équipe, quand on la compose, on cherche pas les meilleurs. On cherche ceux qui vont être les meilleurs ensemble. Et c'est complètement différent comme approche. C'est alors qu'évidemment, le PSG que j'évoquais, ils vont acheter les meilleurs individuellement et après, ils vont les additionner avec l'illusion que finalement, une belle équipe, c'est une somme de talents.
Mais le foot et le rugby, c'est pas le même sport, c'est pas la même philosophie. Le rugby, on est derrière le ballon, la mêlée est derrière le ballon, donc il y a beaucoup plus ce côté troupier nécessaire qu'individualité. On peut pas avoir juste une star dans une équipe de rugby, ça suffit pas. En fait, il se fait avaler par la mêlée adverse. Voilà.
Et puis il y a aussi plus de place pour une hétérogénéité en termes de physique et en termes sociaux aussi. Venons-en à votre type de théâtre. Il n'y a pas que la dimension de troupe, il y a une dimension de vitesse, d'accélération permanente.
De rythme.
De rythme, évidemment. Parfois, vous avez le même comédien qui va changer de rôle. Vous avez des décors qui bougent de façon extrêmement vite. Là, vous avez quand même inventé quelque chose. Donc, ça marche bien.
Je l'ai piqué à droite à gauche. Hein. En théâtre, en général, on n'invente rien. Tout ce qui crée l'originalité, c'est l'agglomération de choses qu'on a vues. Je veux dire, moi, j'ai piqué des trucs à Mnouchkine, Brooke, Wajdi Mouawad, Sivadier, McBurney, tous les grands metteurs en scène. Je me suis dit, ah, ça, c'est génial, je vais le prendre. Et puis après, on le met au service de sa propre histoire. Quoi.
Mais néanmoins, et c'est le cas aussi d'une histoire d'amour, d'ailleurs, dans lequel vous jouez, hein, je précise que vous jouez dedans. Néanmoins, ça va très vite. Et ça tourbillonne. Mais la vie, c'est pas exactement comme ça. Dans la vie, il y a des temps morts. Dans la vie, il y a des petites plages d'ennui. Du coup, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça dit que cet art, au fond, ne ressemble pas à la vie, mais c'est peut-être pas grave ? Ou est-ce que j'ai pas bien compris ?
Bah, ça dit que si quand on venait au théâtre, on voyait la vie, en fait, pourquoi venir au théâtre ? Pourquoi aller au cinéma ? Pourquoi aller voir un match de foot ? Pourquoi ? Bah non, on veut voir autre chose, on veut être transcendé par une histoire, on veut qu'il se passe quelque chose, on veut qu'il y ait du suspense, on veut que ça aille vite. Pourquoi ça va vite, en fait ? Parce que le théâtre aujourd'hui est influencé par le reste. Est influencé par Netflix, est influencé par la télé, est influencé par les pubs, est influencé par la vitesse à laquelle aujourd'hui tout s'est accéléré. L'information s'est accélérée, on regarde un film à la télé tout en regardant des trucs sur notre téléphone et en commentant sur Twitter, etc. On multitask, donc notre cerveau il est habitué à avoir des histoires beaucoup plus ramassées. Le montage, quand on regarde le montage cinématographique, l'évolution en seulement 100 ans du montage cinématographique, c'est des plans beaucoup, 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 beaucoup plus courts. Donc, pour moi, quand je raconte une histoire au théâtre, il faut se rappeler que je veux absolument que mon théâtre soit un théâtre populaire.
Oui.
Donc, je veux que ce théâtre parle à des gens qui ne vont pas au théâtre. Et je veux surtout pas que transpire une notion d'ennui dans mon théâtre, parce qu'il n'y a rien de pire que « Oh, le théâtre, c'est chiant ». Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire « Mais non, c'est pas vrai, le théâtre, c'est merveilleux ». Moi, quand étant ado, j'ai vu des pièces qui ne m'ennuyaient pas du tout, des pièces où je me disais « Mais c'est incroyable de voir ça, j'ai jamais vu ça au cinéma
».
Le théâtre permet des choses que ne permet pas le cinéma.
Je comprends, ça se défend, l'argument est bon, mais toutefois, on pourrait aussi penser que la pièce pourrait n'être pas chiante. Et donc, vous pourriez atteindre ce but, que ce soit un théâtre populaire et de qualité, mais quand même avec des moments de ralentissement. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup.
Non, il y en a. Il y a des moments où ça se ralentit, mais ralentissement, c'est pas le mot, en fait. Moi, j'appelle ça des respirations.
Ouais.
Il faut des respirations, c'est ce qu'on dit, mais pour que cette respiration, elle ait du sens, il faut que le reste ne traîne pas, en fait. Souvent, mes spectacles durent souvent à peu près la même durée. Il y en a un seul, à vrai dire, qui varie, c'est Intramuros, parce qu'il se passe en prison. Et la raison pour laquelle il varie, c'est parce que c'est le seul où les musiques qu'on entend, et il y a beaucoup de musique dans mes spectacles, ne sont pas enregistrées, c'est des musiques en live. Donc c'est un musicien en live. Et donc, comme il joue en live, et ben il joue au rythme des acteurs. Et donc, parfois, le spectacle va varier entre 1h35 et 1h45. Et ce que je dis à mes acteurs, c'est écoutez, si le spectacle fait plus d'1h40, je pense que les gens applaudiront. Mais si le spectacle fait moins d'1h40, les gens se lèveront. Et on le constate dans la salle.
Il y a un vrai sens du rythme, en fait.
Mais il y a quelque chose, mais je suis le premier spectateur. Quand je vois que les spectateurs arrivent dans le dernier acte d'un spectacle et qu'il y en a qui regardent leur montre, c'est dommage, parce que si ça allait juste un peu plus vite, ils ne regarderaient pas leur montre.
un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchire ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir. Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir.
C'était évidemment le grand Charles, Charles Aznavour, et pourtant.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Alexis Michali, qui est en ce moment au Théâtre d'Avignon, en train de jouer dans la pièce qu'il a écrite et mise en scène, Une histoire d'amour. Et justement, eh ben cette pièce, non seulement s'ouvre par cette chanson de Charles Aznavour, mais en plus d'une manière qui fait résonner ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque vous chantez, vous êtes, je crois, cinq, vous êtes un des cinq, et que vous chantez à tour de rôle, et que chacun, comme ça, on a l'impression, en fait, participe du collectif, s'efface. C'est pas comme parfois, dans les, par exemple, dans les battles de hip-hop, celui qui va au milieu, c'est son moment. Et là, tout le monde s'écarte, et c'est son moment, et puis après, c'est le moment de l'autre. Là, c'est pas ça. Là, il y a de la douceur. Et puis, vous avez une jolie façon, sur scène, de vous effacer un par un, quand vous avez fini votre couplet à la fin de cette chanson. D'ailleurs, j'avais même pas pensé en préparant l'émission, mais en fait, ça dit un peu la notion d'effacement que j'évoquais tout à l'heure. Quand je disais, en fait, une belle équipe, ça exige que des individus, finalement, sachent s'effacer pour qu'existe l'être ensemble.
Moi, je dirais plutôt que s'effacer, c'est se mettre au service d'eux. C'est-à-dire que c'est être acteur, c'est être au service d'un réalisateur, d'une vision, d'une histoire. Et en tout cas, chez moi, c'est vraiment l'histoire qui prime avant tout. Et en revanche, bon, oui, il y a peut-être moins la confrontation de la battle, mais il y a quand même, chacun va avoir son moment. Ouais. Chacun va avoir sa scène, son dialogue, tout le monde va avoir un moment où il va être mis en avant, mais au final, il faut toujours se mettre au service de, même dans le code de jeu, ce qui est toujours hyper important, ce code de jeu, c'est que tout le monde joue dans le même code de jeu et effectivement, oui. Qu'il y ait pas, que ça force pas.
Une tonalité, c'est ça?
Oui, qu'on tombe pas dans la caricature, vous voyez, ouais. on peut jouer de manière très, très agressive, très forte, très outrancière, souvent, quand c'est des pièces un peu souvent un peu subventionné, ça peut crier très fort et s'arracher, ouais. Etc. Voilà, c'est un code de jeu. Ouais.
Comment vous définiriez votre code au fond ?
Il est simple en fait. Il est simple. C'est, je dis souvent, il faut qu'on ait l'impression que les spectateurs aient l'impression que tout est très simple, alors que c'est assez complexe et qu'il y a beaucoup de changements et que ça s'arrête jamais. Il faut surtout pas que le public se dise ah là ils sont un peu en galère.
Ouais. Mais alors, tout à l'heure, vous avez évoqué de façon assez scientifique presque la notion de la temporalité, mm-hmm. en disant voilà, à, je sais pas, à 3 secondes près, ouais. Le public va simplement applaudir ou alors se lever. Mm-hmm. Et là, on a entendu quand même la maîtrise, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui est assez bluffant dans ce que vous faites, c'est quand même très très bien fait. Il y a une mécanique, on voit un sens de la dramaturgie, de la construction, là vous avez parlé de la temporalité. Du coup, c'est comme si cette maîtrise, finalement, c'est ça qui vous autorisait à in fine une forme de lâcher prise et d'y maîtrise, quoi.
Oui, enfin, en tout cas, non, c'est que la maîtrise, elle doit pas être apparente. Elle doit pas être, nous, on ne doit pas se dire, ah, c'est très maîtrisé. Nous, on doit juste suivre l'histoire. Mais cette maîtrise, elle est encore une fois au service de cette histoire. Bon, après, c'est des choses que j'ai appris de spectacle en spectacle. Ouais. Hein. Le premier spectacle, le mariage de Figaro dont on parlait tout à l'heure, là, moi, j'avais aucune notion de scénographie. On avait un fauteuil, deux bancs. J'avais aucune notion de lumière. On avait un plein feu. Il y avait plein de choses que j'ignorais complètement. La seule chose que j'avais et que je voyais, c'est cette notion de troupe, justement, ouais. d'équipe. Et c'est ça qui transparaissait vraiment. Et c'est devenu une constante à travers tous les spectacles, quel que soit le nombre d'acteurs. Il y a vraiment ce côté groupe où, et c'est ce qui me rend le plus fier, on se dit, en fait, les acteurs sont tous bons.
Mais je reviens à cette notion de dramaturgie. Mm-hmm. Quand même, il y a une vraie maîtrise de la construction, au fond. Et ça veut dire que, est-ce que vous arrivez à vous en défaire quand si vous allez au cinéma, par exemple, vous arrivez à regarder un film en étant libéré de ce
Non, son... j'ai forcément eu un peu la déformation professionnelle.
Ça va être fatiguant d'aller au cinéma avec vous.
Ouais, c'est surtout la structure, etc. Ouais, c'est de famille. Hein. Vraiment, il y a un truc où on regarde, et puis en général, on dit, bon, là, c'est lui le méchant. Vraiment, au bout de 10 minutes, on sait.
Avec vos parents, quand vous étiez enfant, c'était déjà ça?
Un peu, ouais. Eux aussi, ils ont un peu ce truc de deviner. Mais après, c'est des trucs de scénaristes aussi. Au bout d'un moment, on les voit, quoi. On voit arriver à ça. S'ils parlent de ça, c'est forcément que ça va avoir de l'importance plus tard. Sinon, il n'y aurait pas de raison d'en parler. Donc, on devine un peu les trucs scénaristiques. Mais justement, quand j'en oublie. Quand un film me surprend, un film, une série, tout ça, ou une pièce, hein, me surprend et que juste je me laisse embarquer et que je me dis je sais pas où je vais, c'est là où je passe le meilleur moment. Et c'est aussi une de mes obsessions dans l'écriture plus que dans la mise en scène, c'est comment arriver à faire en sorte quand les gens rentrent dans la salle qu'ils soient continuellement surpris fur et à mesure de la pièce et que malgré tout cette surprise continuelle elle ait un sens, qu'à la fin ils se disent il a juste fait n'importe quoi. Il faut que l'histoire que je raconte à la fin prennent sens. Et souvent, la fin de mes pièces, c'est la raison pour laquelle j'écris la pièce. Je me lance pas dans une écriture si je ne sais pas comment ça va se terminer. Puisque j'écris tout ça pour cette fin.
C'est un peu comme un one man show où en fait on part dans tous les sens, mais à la fin on comprend pourquoi.
Oui, même si un one man show, il y a moins cette nécessité de raconter une histoire. Ouais. Ça peut être des sketchs séparés, ça peut être juste des blagues, ça peut être. Il y a certains one man shows, certains artistes humoristes qui font ça, qui racontent une véritable histoire, mais qui font des digressions, etc. Et là, ça s'en rapproche, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Mais alors vous, ça veut dire que vous commencez vraiment à y aller quand vous savez où vous allez.
Oui. C'est ça, je vais pas, parce que sinon on se retrouve un peu perdu, quoi. Et puis le pire, c'est le doute, je trouve. C'est qu'une fois qu'on a du doute, tout le monde s'y engouffre. Sur un plateau, un metteur en scène, un réalisateur, quand il sait où il va et quand on a la sensation qu'il sait où il va, et c'est un truc que mes acteurs disent beaucoup de moi, c'est il sait où il va, il sait exactement ce qu'il veut. Et en fait, quand quelqu'un sait ce qu'il veut, on lui fait confiance. Alors que quand il sait pas ce qu'il veut, quand il commence à se dire « Ah, je sais pas trop ce que je veux », c'est là que tout le monde va y aller de sa suggestion personnelle et que les ennuis commencent.
Mais ça vous empêche pas, vous-même, peut-être d'avoir des doutes et de les cacher?
Exactement, ouais. Je vais dire, écoutez, on va faire comme ça. En fait, c'est pareil, c'est un choix que un conseil que je donne souvent aux gens qui demandent des conseils un peu de mise en scène. C'est la mise en scène, c'est une succession de choix. C'est une succession de décisions. On va prendre ce costume plutôt que celui-là. On va rentrer par cette entrée plutôt que celle-là. Et toutes ces décisions, elles ont plus ou moins d'importance, bien sûr, mais c'est au final une succession de décisions. Et quand on se retrouve un peu bloqué sur qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ça ou ça, mon conseil, c'est de choisir vite. Et instinctivement, de choisir ce qu'on pense être la meilleure solution, mais pas de perdre du temps sur des choix. Parce que plus on choisit vite, plus on arrive à choisir vite sur l'ensemble de ces décisions, et plus on aura vraiment du temps pour les choses importantes. Et donc, ne perdez pas de temps sur les choses qui en fait peuvent être résolues. Et si on se plante, c'est pas grave. On peut revenir dessus, c'est pas grave. On sera planté un petit peu, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est de choisir vite.
Quand on vous écoute, c'est très intéressant, parce que ce qui se décide, en fait, c'est une position d'auteur assez singulière, en fait. Une figure de l'auteur qui n'est pas une figure habituelle chez nous.
Mais parce que je suis un auteur metteur en scène.
Voilà, c'est ça. Un auteur un peu entrepreneur, presque. Mm-hmm. Un entrepreneur parle comme ça de la décision. Il va dire, voilà, écoutez, on va pas s'embarrasser pour savoir pendant des heures si on fait ça ou ça. On le fait et puis on dégage de l'espace pour les choses plus importantes.
Tout à fait.
Et de même, un entrepreneur va dire, voilà, moi, je garde mes doutes pour moi. Ils existent, bien sûr, mais je donne le cap. Mm-hmm. Et finalement, dans votre figure, c'est très intéressant parce que c'est ce que je dis, c'est sans jugement de valeur, c'est presque objectivement. Il y a une figure de l'efficacité.
Mais moi, je me vois plus comme un entrepreneur que comme un artiste. Hein. Vraiment, j'ai la sensation que, pour moi, la figure de l'artiste, c'est quelqu'un qui est continuellement dans le doute et continuellement dans la recherche et dans l'exploration. Moi, j'essaie. Mon but, c'est de construire des familles, une sorte d'entreprise artistique et théâtrale, de raconter des histoires et d'aller les disséminer le plus possible, de créer des groupes. Et ensuite, une fois que le groupe est créé, une fois que la pièce est lancée, allez, je vais passer à la suivante.
Le doute, il est toujours à la racine hein, de toute œuvre. Et moi, je sais que j'ai beaucoup progressé à partir du jour où j'ai accepté de rater et de perdre. Parce que pendant longtemps, comme je n'arrivais pas à atteindre ce que je voulais faire, je détruisais tout ce que je faisais. Et après, je me suis aperçu que de toute manière, on ne peut que rater à dire ce que l'on veut dire.
Alors, je vous ai préparé cet extrait de Charles Juliette. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec une partie, mais pas avec tout. Parce que dans votre proposition, et c'est une proposition qui est puissante, mais qui est discutable, je trouve, vous dites, voilà, c'est parce que je sais ce que j'ai à dire que j'y vais. Mmh. C'est parce que je connais la fin que je vais dérouler. On pourrait presque penser que un artiste, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui
cherche.
Et qui surtout qui va changer d'avis et qui va découvrir au contact du faire que finalement ce qu'il voulait dire est autre.
Bien sûr. Après, un artiste, il a pas des contraintes de budget comme moi je vais avoir quand je me lance dans un film ou dans une pièce. Un artiste face à sa toile, bon bah voilà, il peut partir et puis pas grave. Enfin, s'il met un an ou six mois ou c'est pas grave. Moi quand j'attaque des répétitions, je sais que le temps est la clé de tout. Je sais que sur un plateau de cinéma, c'est pareil. En fait, sur un plateau de cinéma, c'est très simple. On se retrouve pendant 2 heures à avoir 200 figurants, des chevaux, un décor magnifique. Et en fait, si on fait notre scène dans ces 2 heures, tout va bien. Ouais. Mais si on prend le temps, qu'on perd du temps et qu'on dépasse ces 2 heures, c'est là que ça commence à aller mal parce qu'on va perdre nos figurants, on va perdre notre lumière, on va perdre notre décor. Et en fait, on n'aura pas pu réaliser ce qu'on veut et on n'aura pas forcément l'occasion de le refaire. Moi, je l'ai vécu en tant qu'acteur sur des films, de me retrouver avec des réalisateurs qui savent pas trop ce qu'ils veulent et puis bon, une équipe pas terrible et qui perdent comme ça, mais une journée de tournage.
Et beaucoup d'argent aussi.
Et beaucoup d'argent, évidemment. Et je me souviens de m'être dit, mais là, cette scène où ils ont passé une journée à discuter, à se mettre en place et qu'au final ils ont rien, cette scène ils ne la retourneront jamais, ils n'auront pas les moyens, le budget de tourner cette scène en fait. Et ça, quand on l'a pas compris que avant toute chose en fait si on termine à l'heure ben en fait on a quelque chose alors que si on termine pas, ben on a rien. C'est la différence entre avoir quelque chose et avoir rien. Donc la notion de temps, la notion de timing, elle est primordiale à partir du moment où on a un budget et qu'il ne faut pas le dépasser.
Mais dites-moi, Alexis Michalik, une question simple en vous écoutant. Est-ce que vous vous ennuyez parfois ?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est même l'ennui qui me pousse à créer. C'est quand je m'ennuie que j'ai envie d'écrire. Quand je suis dans le rythme d'une vie qui aujourd'hui effectivement laisse assez peu de place à l'ennui parce que je dois gérer toutes ces équipes et tous ces trucs, j'ai pas l'espace disponible pour écrire, pour créer. Enfin, je pourrais l'avoir, mais aujourd'hui j'ai pas ce besoin absolu d'exister que j'avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, aussi maintenant, je sais que si je fais une proposition, si j'essaie de dire bah voilà, je vais faire un spectacle ou je vais faire un film, a priori il va exister. Mmh. Et en plus de ça, c'est quand il va exister que la critique ou les retours vont être beaucoup plus durs qu'ils eût pu l'être au début. Donc je me pose beaucoup plus la question maintenant de est-ce que je suis vraiment sûr d'avoir envie de raconter cette histoire.
J'ai vécu le phénomène de l'ennui vraiment peut-être d'une façon pathologique. Je me suis ennuyé, mais je voulais aussi m'ennuyer. Mais quand on s'ennuie partout, c'est fichu. Au fond, l'ennui, c'est axé sur le temps, sur l'horreur du temps, la peur du temps, la révélation du temps, la conscience du temps. Ceux qui ne sont pas conscients du temps ne s'ennuient pas. Et au fond, la vie n'est possible que si on n'est pas conscient du temps. Parce que si, par exemple, chaque moment qui passe, si vous en êtes conscient, c'est fichu. La vie devient un phénomène absolument insupportable. L'expérience de l'ennui, c'est la conscience du temps exaspéré.
Alors, on a reconnu la voix de Cioran, bien sûr, qui disait, Cioran, par ailleurs, s'ennuyer, c'est chiquer du temps pur.
J'adore les aphorismes de Cioran. Mais même, je dirais presque que l'ennui est un luxe, parce que quand on s'ennuie, a priori, ça veut dire qu'on ne souffre pas. L'ennui, c'est que tout va bien, c'est que
quand
juste
on s'ennuie,
il nous faut une occupation, quoi.
Ouais, quand on s'ennuie de manière pas trop douloureuse, quoi.
Voilà, c'est ça. Oui, mais en général, si l'ennui c'est la sensation qui domine, c'est que c'est pas la douleur, c'est pas la souffrance, et
ouais, c'est vrai.
C'est que on est juste en train de se dire bon bah ça va, qu'est-ce que je peux faire.
Ouais, donc, ça peut être aussi une plage qui fait émerger de la créativité au fond.
Et c'est en tout cas chez moi, c'est clairement le cas, ouais.
Ouais, il y a un sociologue allemand que vous connaissez sûrement, Hartmut Rosa, qui dit voilà que le monde est caractérisé par l'accélération. Accélération des flux, accélération des échanges, accélération du rythme de vie dont vous avez bien parlé et dont vos pièces se font comme une chambre d'écho. Mais après, Hartmut Rosa, il a écrit un autre livre qui s'appelle Résonance. Et il dit voilà, la solution, si on veut pas être complètement happé et dévoré par l'accélération, c'est de trouver des moments de résonance, finalement. Des moments où ça s'arrête et où quelque chose résonne. Par exemple, le sens, ça peut être votre pièce, par exemple, elle va très vite. Puis à la fin, il y a une idée qui émerge et on part avec et elle résonne.
Mais moi, je pense que la résonance, c'est dans l'après, en fait. Ce qu'on appelle résonance, pour moi, ça se tient quand on a vu une œuvre, à quel point elle résonne chez nous, en fait. C'est une fois qu'on a vu une œuvre, est-ce qu'elle résonne ? Si elle résonne pas du tout, si on en sort et qu'on l'a oublié sitôt qu'on sort de la salle, c'est qu'a priori, c'était pas si important que ça pour nous. Et en revanche, si elle reste en vous et qu'elle résonne et qu'on y repense, comme toutes les œuvres que moi j'ai adoré voir, c'est qu'elle a ce pouvoir de résonance. Et ça a rien à voir avec la vitesse de l'œuvre en elle-même.
Vous avez un exemple quand même de ce qui vous a comme ça porté dans l'adolescence,
j'en ai
un
plein.
Souvenir précis.
Je veux dire, Cyrano, la lecture de Cyrano comme tout le monde, mais les pièces de Brooke, de Mac Burney, ce que je citais tout à l'heure, le costume de Brooke, le dernier caravansérail de Mnouchkine, la première pièce de Simon Mac Burney que j'ai vue, c'était Mnémonique, où je me suis dit, waouh, on peut faire des choses comme ça au théâtre.
Vous avez quel âge?
J'étais ado, je pense, je devais avoir 13-14 ans, et je me souviens de la première pièce de Wajdi Mouawad que j'ai vue, qui était Forêt à Malakoff, et c'est la première fois que je me suis dit, en fait, on peut écrire au théâtre aujourd'hui.
Some angels with the
C'était Gabriel's One and Only.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous avons toujours le bonheur d'être avec Alexis Michalik, dont la pièce Une histoire d'amour est actuellement jouée à Avignon. D'ailleurs, vous jouez dedans. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas joué dedans.
Ça faisait longtemps, ouais. J'avais laissé le rôle à mes camarades Clément Aubert et Paul Lapierre, et Adrien Cochetier, Paul Lapierre qui reprendra le rôle pour la deuxième partie du festival. Et puis oui, mais parce qu'entre-temps, on a réalisé le film, donc j'ai aussi joué dans le film qui va sortir dans quelques mois, je pense.
Ouais.
Et là, c'était l'occasion parce que c'est l'ouverture d'une nouvelle salle qui s'appelle la Scala Provence. Mmh. Donc Frédéric et Mélanie Biessi, ils ont déjà la Scala à Paris, et ils ont racheté un cinéma qui s'appelait le Capitole à Avignon. Et ils en ont fait un magnifique théâtre qui a 4 salles, dont la plus petite fait 60 places, et la plus grande dans laquelle j'ai la chance de jouer fait 600 places.
Ouais.
C'est la plus grande salle du Hof, il n'y avait jamais eu une salle aussi grande dans le Hof. Et c'était l'occasion d'ouvrir ce théâtre.
Et alors, ça vous a fait quoi de remonter comme ça dans votre pièce de surcroît ?
Bah, c'est super. Ouais. Ça fait peur, mais
ça fait peur un peu.
Bah ouais, ça fait toujours peur de remonter sur scène, je trouve. Puis surtout, c'est une pièce un peu particulière où quand même, c'est beaucoup sur l'émotion.
Ouais, ouais.
Et donc, il faut un peu aller chercher des choses dans le ventre, quoi. Mais ça revient assez vite quand on est entouré d'une aussi belle équipe, puisque c'est l'équipe de création qui joue Juliette Delacroix, Marie Cassoyer, Pauline Bression,
ouais,
et 3 jeunes comédiennes de 12 ans en alternance.
Ouais, j'ai vu. Et alors, parlons un peu d'amour. Dans Edmond aussi, il y a une réflexion sur l'amour intéressante, notamment dans cette espèce de balancement comme ça entre la figure de la femme et celle de la muse. D'après, si j'ai bien compris, on veut nous faire croire que finalement la femme va être éclipsée par la muse. Et puis finalement, je crois que ce que vous arrivez à dire, c'est que chacun est à sa place, non ?
Ouais, enfin, tout ce que je dis, c'est que la muse, elle est là juste pour faciliter la création, quoi.
Ouais.
C'est un peu ce que racontait Edmond sur le désir. Il dit, voilà, on a toujours besoin du désir pour créer, en fait.
Ouais.
Si on n'a pas de désir, on crée pas, il n'y a pas d'acte artistique. Et ce désir qu'on va chercher pour aller au bout de sa création, il peut prendre plusieurs formes, en fait. Mais il nous faut une envie. Si on n'a pas cette envie, alors cet acte de création, il sert à rien, quoi, ou il aboutira pas.
Ouais. Hegel disait, le philosophe allemand, que parmi tous nos désirs, il y en a un qui est plus fort que les autres, qui est d'ailleurs la vérité de tous les autres désirs, qui est caché derrière, c'est le désir de reconnaissance.
Ouais.
Ce serait le moteur. On n'a pas envie de créer, on a envie d'être reconnu comme créateur.
Mmh.
On n'a pas envie de se marier, on a envie d'être reconnu dans son amour. Quand on a... Donc, d'après Hegel, on n'a jamais assez de reconnaissance parce qu'on a une conscience de la mort qui vient menacer notre valeur, et comme en tant qu'animaux conscients, on le sait. Donc, on va chercher une compensation perpétuelle en voulant toujours plus de reconnaissance.
Mmh.
Mais bon, dans votre cas, il y a quand même beaucoup de reconnaissance. Est-ce que parfois, ça fait pas comme un manque, en fait, ou un problème ?
Non, moi, je me retrouve assez là-dedans sur la première partie de ma vie, ouais, on va dire, de ma carrière, en quelque sorte, où j'avais vraiment envie de cette reconnaissance, j'avais envie d'exister, j'avais envie de me dire, déjà de survivre, en fait, de pouvoir se dire, bah voilà, je vis de mon art, ça a été une première victoire, et puis ensuite, par la suite, effectivement, il y avait cette envie de reconnaissance.
Ouais.
Et quand cette reconnaissance est arrivée, en fait, une fois que la reconnaissance est là, les rapports deviennent beaucoup plus simples, en quelque sorte, entre les acteurs du métier, les directeurs de salle, etc. On est sur des rapports plus sur le même niveau, quoi. Et puis maintenant, du coup, c'est presque l'inverse. J'ai ce truc de me dire, bon, bah, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Maintenant, et si je prenais un peu le temps de me poser la question de qu'au fond, est-ce que j'ai pas juste envie d'aller faire de la planche à voile, quoi.
Et alors ?
Bah oui, un petit peu. Donc je veux dire, il est important en tout cas c'est la chance que j'ai eue. La plus grande chance que j'ai eue, c'est que tout ce que j'ai créé, ça venait uniquement de ma propre envie, de mon propre désir,
ouais,
et de mes propres idées. C'était mes projets. Ça n'a jamais été des projets de commande, sauf évidemment quand je joue, mais c'est autre chose parce qu'on se met au service de quelqu'un d'autre. Donc j'adore jouer parce que pour le coup, c'est un peu comme la planche à voile. Hein, on surfe sur ce qu'on nous propose. Mais pour ce qui est de la création, je vais continuer à écouter en fait mes propres désirs et qui ne sont pas mus par une envie de reconnaissance, puisque c'est bon, je l'ai eu, et qui sont juste mus par, ok, est-ce que c'est une bonne histoire, est-ce que ça va parler, ouais, à quelqu'un, et surtout est-ce que ça me touche, moi, est-ce que cette histoire me touche.
Oui, parce que finalement, une histoire d'amour, je crois que c'était aussi lié à une rupture.
Oui, mais même au-delà de ça, évidemment, une histoire d'amour, c'est une histoire plus intime. Mais chacune des pièces que j'ai écrites, ou du roman ou quoi, ou des films, c'est quelque chose qui me touche à un endroit. Et ça veut pas dire que c'est ma vie que je raconte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose où moi je suis touché quand je raconte cette histoire ou quand j'entends cette histoire.
Alors Alexis Michaudet, qui est une question que je pose souvent à mes invités quand approche malheureusement la fin de l'émission, c'est à quoi voulez-vous vraiment être fidèle?
Je crois que je suis très fidèle en amitié. Je crois que j'ai des amitiés de plusieurs années et que j'aime ça. Je suis vraiment, il y a quelque chose dans cette construction de spectacle, mais aussi de famille, oui, qui fait que il y a Régis Vallée, mon meilleur ami, on a fait sept spectacles ensemble. Il y en a plein que je pourrais citer. Benjamin Bellecour, qui est un de mes meilleurs amis, c'est aussi mon producteur et associé.
Je crois qu'il était présent déjà dans le premier spectacle, ce qu'on évoquait, la Folle Journée.
Folle Journée, c'était Régis, qui était dedans, effectivement. Et Benjamin, il a produit un Roméo et Juliette que j'ai monté avec trois acteurs il y a très longtemps. Et puis, il a produit tous mes spectacles. Et voilà, il y a plein de gens comme ça qui font partie de plein d'autres. Hein. Ida Asgarzete, qui est une super auteure de théâtre aussi, qui a été mon assistante sur Edmond. Enfin voilà, et on est toute une bande d'amis où on part en vacances ensemble, on se retrouve à fêter les fêtes parfois, et puis à travailler ensemble, et ça ne...
Fidèle à l'amitié, quoi.
Ouais, je pense que c'est peut-être plus facile à mener de front que le couple, et puis surtout on peut avoir plusieurs amitiés sans que ça...
Il y a moins d'exclusives dans l'amitié. Exactement. Quoique, vous préférez la définition de l'amitié d'Aristote? Un ami, c'est quelqu'un qui te rend meilleur. Ou celle de Giorgio Agamben qui dit un ami, c'est quelqu'un qui rend ta vie plus douce.
Ouais, je préfère la deuxième, mais la première est vraie aussi, je pense. On apprend beaucoup de ses amis, et moi j'ai vu sur ces amitiés de 20 ans que j'ai pris de mes meilleurs amis, parfois d'un je vais prendre son humour, je vais essayer de m'en approcher, d'un autre je vais prendre sa gentillesse ou sa douceur, et puis moi aussi je vois bien que je vais parfois leur apporter un certain pragmatisme.
Est-ce que vous essayez d'aider d'autres metteurs en scène ou dramaturge à monter des troupes? Est-ce que vous avez ce travail pour les autres?
Oui, en tout cas en termes de transmission, même si je suis quand même un jeune, un peu, pour un metteur en scène en tout cas, mais en termes de transmission, j'aime bien, effectivement, je vais souvent faire des, entre guillemets, masterclass, des interventions, des endroits où je parle, soit à des jeunes comédiens, soit... Je pense que j'aimerais bien faire quelque chose de plus proche pour la mise en scène, mais il n'y a pas vraiment d'école de mise en scène en France.
Peut-être faut la créer, non?
Peut-être faut la créer, ouais. Mais c'est sûr que, oui, il y a des gens que je vais toujours chercher à avoir une approche constructive et bienveillante sur des collègues et sur des jeunes metteurs en scène ou metteuses en scène, parce que je sais ce qu'ils traversent, je sais les responsabilités que c'est, je sais ce que c'est de porter un projet, et je vais toujours essayer de leur donner quelques clés peut-être pour leur faciliter la vie.
Alexis Michalik, merci de nous avoir rejoints sur le Soleil de Platon. En guise de remerciement, je vais essayer de dégager pour nos auditeurs ce matin votre philosophie de la vie. La philosophie de la vie d'Alexis Michalik. J'aurais envie de dire que la vie, c'est quelque chose qu'il faut prendre, qu'il faut bouffer, qu'il faut dévorer. Il faut pas en perdre une miette. Il faut que chaque matin soit presque rentabilisé, j'ai envie de dire. En tout cas, avant la mort, parce que après, c'est trop tard. On sent quand même qu'après, vous pensez que c'est trop tard. Vous êtes un homme pressé, mais je sais pas par quel miracle, pressé, mais pas oppressé. Et vous réussissez, et vous réussissez, et vous réussissez parce que vous savez consentir profondément, et je dirais à chaque étape de cette carrière, à l'échec. Vous êtes celui qui fait mentir Rousseau, puisque Rousseau disait « la fête c'est démocratique et le théâtre c'est élitiste ». Vous faites mentir Rousseau, et vous faites aussi mentir Sartre, qui disait qu'on ne peut pas réussir sans tomber dans l'enflure de l'être. Sartre qui disait, voilà, il parle du docteur Roger, c'est le notable de province, il arrive dans le restaurant, il veut être reconnu, et il dit, voilà, il tombe lentement, l'enflant, lentement, comme ça, dans l'enflure de l'être. Et puis, je ne sais pas par quel miracle, vous réussissez à échapper à ça, à être tout simplement sympa, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, sympa, optimiste, avec cette espèce de joie du créateur qui sait ce qu'il a à faire. Merci beaucoup, Alexis.
Merci
Michalik. Cette émission a été préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud, à la réalisation Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, à la technique Adèle Caglar. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver lundi matin à 9h exactement sous le soleil de Platon dans la caverne de France.